France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors, l'actualité est assez chargée, mais juste au départ, je voudrais saluer une personne qui quitte l'antenne de France Info, c'est Fabienne Sintès. Et oui, l'année prochaine, elle officiera chez nos voisins de France Inter, et ça me fait un peu, je dois te dire, ça va tout bizarre de le dire, parce que depuis 4 ans, elle animait les matinales de France Info, nous partageons d'ailleurs le même bureau. Alors, il est coutume de dire que l'on regrettera ses collègues, alors moi, mais pas du tout, puisque l'année prochaine, il n'y aura plus de café froid traînant sur le bureau, c'est pas mal, ni de « tu te rends compte, hier j'ai vu Véronique Sanson en concert, c'était génial, elle était sobre » ou « t'as pas une clope, je viens d'arrêter de fumer », libéré, en tout cas, personnellement, de tout ça, mais surtout, je suis content que Fabienne Sintès s'en aille, car nous allons pouvoir la regretter, on se sépare en tout cas comme on peut. Et eux, ils sont bien là et dans l'actualité, ce soir, les informés de France Info reçoivent Éric Scholl, bonsoir, directeur de Cours International.
Bonsoir.
Également Alain Léautier, bonsoir de Marianne.
Bonsoir.
Et Angélie Chili, bonsoir. Fondatrice de Terrorisque, donc société de conseil en intelligence stratégique. Et Anthony Bélanger, justement, de France Inter. Alors, peut-être qu'il a fait bien une synthèse, doit nous rejoindre. Il doit être quelque part perdu dans la maison. Anthony, tu es le bienvenu si tu es dans le coin. Et ce soir, une émission spéciale hommage à Nice et un Américain à Paris. Les informés de France Info, bienvenue dans un monde où Daft Punk est désormais une musique militaire. C'est parti. Aujourd'hui à Nice, il y a beaucoup de couleurs, 12 000 plaques bleues, blanc, rouge au sol formant le message « Liberté, égalité, fraternité » ont été déposées sur la promenade des Anglais. Et à 22h30, 86 faisceaux s'illumineront, 86 comme le nombre de victimes tombées il y a un an, jour pour jour, alors qu'un camion fou était lancé sur la prom, en plein feu d'artifice. Un attentat bien sûr impossible, bon, à oublier, et un hommage fort auquel participe une partie du gouvernement, de nombreux élus et trois présidents de la République, hein, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Une cérémonie lourde d'émotion pour un pays, mais également bien sûr pour une ville entière. Et un an après, les blessures sont toujours là. Parole de Niçois ce matin sur la promenade des Anglais.
C'est une année de grandes émotions qu'on a vécues, et on a été près des victimes pour les accompagner au mieux toute cette année.
Complètement meurtri, complètement démuni face à ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'il fallait être là aujourd'hui. Et surtout ne jamais oublier.
Il y a différents processus pour arriver à ce travail de deuil. Et un an après, on voit que les Niçois sont encore très touchés, très affectés. Et c'est vraiment très important aujourd'hui, une journée comme celle-ci.
Voilà, donc parole de Niçois ce matin sur la promenade des gens anglais. Juste au départ, Alain Léautier, on voit ces hommages malheureusement se multiplier. Est-ce que c'est, dans la symbolique, c'est important pour une nation justement d'avoir ces hommages pour fédérer autour ?
Ça me semble à peu près incontournable. Qu'une nation, par des gestes symboliques, classiques, tente de se réunir et de refonder une possibilité d'aller de l'avant. Oui, c'est des gestes qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Après, sur Nice, moi je crois qu'il y a d'autres choses à dire, même si les hommages, une fois que les hommages ont été rendus, il était important qu'ils le soient.
Vous avez vu tout de même, par exemple, au moment du 13 novembre, un an après, un hommage plus discret, on va dire, de la part, il y avait François Hollande, Anne Hidalgo, des familles de victimes, c'était plus discret, là on a voulu faire quelque chose de plus important.
Oui, c'était peut-être aussi plus discret parce que c'était à chaud, qu'il y avait peut-être aussi des moments de polémique. Les polémiques, aujourd'hui, elles sont un petit peu plus en sourdine, donc voilà, il y a d'autres figures aussi, des figures régaliennes, donc peut-être c'était aussi l'occasion de précisément de refonder quelque chose au-delà des polémiques possibles.
Angélie Chély.
Oui, bah c'est aussi un 14 juillet, hein, donc forcément il y a une dimension commémorative qui de fait existait et qui, avec l'événement, vient se cumuler, on va dire, dans l'aspect mémoriel, ritualisation du souvenir, etc. Donc bon, maintenant effectivement le rituel c'est important, mais même les victimes d'ailleurs le disent. Maintenant c'est des actions, c'est des actes, hein, qu'il faut, parce qu'on est on a vraiment été dans la répétition de la commémoration, de la mémoire, enfin, je dirais, la douleur collective. Je pense que ça, de fait, ça va forcément, il y aura d'autres Il y a des hypothèses quand même assez fortes pour que ça puisse se renouveler. Donc il ne faudrait pas que cette ritualisation devienne finalement le dernier recours quand on ne sait plus quoi faire au niveau politique.
Alors c'est ça justement, juste une chose, après on parlera vraiment de Nice, Éric Scholl. On voit quand même que depuis janvier 2015, depuis ces attaques contre l'hypercachère, contre Charlie Hebdo, on voit un pays qui a changé. Tout de même par rapport à ces attaques terroristes.
Bien sûr, on a commencé à comprendre que le terrorisme se renouvelait, enfin revenait régulièrement. On n'y croyait pas. Ça s'est passé en France, ça s'est passé partout ailleurs. En Europe, ailleurs qu'en Europe, mais aussi en Europe, et cette année encore, on l'a vu, chaque fois on se dit, plus jamais ça, et puis en réalité, il y a Manchester, il y a Londres, il y a Berlin, il y a Paris, et donc ça revient, on nous avait prévenu, on nous l'avait dit, mais pour nous, citoyens, c'est quelque chose qui est à la fois inacceptable, et on se dit toujours, cette fois-ci, on va réussir à conjurer le sort, on va réussir à passer au-delà, on va en finir avec ce terrorisme, cette folie aveugle. Quand on voit ces images d'il y a un an, on se dit on va réussir à en terminer, et non, parce que au-delà même de la guerre contre Daesh, on s'aperçoit que le terrorisme est toujours là.
Alors juste une chose, donc Angelina Jolie, c'est vrai que l'attentat de Nice aussi avait, on se souvient, il y a un an, avait peut-être alors stupéfait, parce que Paris a été particulièrement touché, notamment, donc on se souvient du mois de janvier 2015, on se souvient du 13 novembre. Il y avait eu Mohamed Merah, bien sûr, à Toulouse en 2012, mais le reste de la France, finalement, il y avait une capacité de se dire, il y a Paris qui est touché, peut-être que nous, on est préservés. Là, le fait psychologique, est-ce qu'il y a eu un impact psychologique en se disant, voilà, le reste de la France peut être touché aussi?
En fait, ce qu'il y a eu, c'est que faut se souvenir que ce qui s'est passé le 14 juillet 2016, en fait, ça venait juste après une surmobilisation de la question sécuritaire et du terrorisme liée à l'euro.
Donc oui, il y a eu
quand même une mobilisation donc à Paris, qui se passait à Paris, où l'ensemble des moyens de l'État finalement était mobilisé sur cet événement-là. Et comme ça s'est bien passé, je ne veux pas dire par là qu'il y a eu un effet de relâchement, mais de fait, il y a eu quand même une espèce de soulagement. Qui était plutôt dans le sens de réjouissons-nous, et puisque c'est le 14 juillet, profitons-en aussi. Et voilà, donc il y a aussi un deuxième point, c'est que c'est souvent là où on n'attend pas les événements qu'ils se produisent.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, c'est Agathe Mahué.
Le 14 juillet en France ne sera plus jamais tout à fait le même. Les mots d'Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice, il y a tout juste un an. Le chef de l'État affirme comprendre la colère ressentie contre l'État, mais tout sera fait, dit-il, pour que le pays regagne justement la confiance des Français. Ailleurs, en France, dans ce contexte, c'est sous haute sécurité que l'on célèbre ce soir la fête nationale. À Paris, concerts lyriques, feux d'artifice aussi depuis la Tour Eiffel. Des dizaines de milliers de forces de l'ordre sont mobilisées pour l'occasion. Rien ne nous séparera jamais des États-Unis. Voilà par ailleurs ce qu'a affirmé aujourd'hui le président français dans un assaut d'amabilité avec à l'égard de Donald Trump. Les deux hommes réunis depuis hier et aujourd'hui encore, donc, pour le défilé militaire qui a regroupé des avions américains et ceux de la patrouille de France pour célébrer le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit de 14-18. L'Égypte, touchée par une attaque au couteau dans une cité balnéaire de l'Est au bord de la mer Rouge, la ville d'Hurghada et ses complexes hôteliers. Deux touristes sont mortes, un doute subsiste quant à leur nationalité. Quatre autres blessés selon les médias égyptiens. L'assaillant lui a été arrêté, il est actuellement entendu par la police. Il sera pour la 11e fois en finale de Wimbledon. Roger Federer a battu Thomas Berdych. Le Suisse affrontera donc Marin Cilic dimanche après la victoire de ce dernier sur l'Américain Sam Querrey. Et puis, victoire aussi du maillot à poids Warren Barguil ce soir sur la 13e étape du Tour. Le Français s'est imposé au sprint. 4e victoire tricolore dans cette édition 2017.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de l'hommage national à Nice hein, pour les victimes du 14 juillet 2016, il y a un an, hein, 86 personnes perdaient la vie sur la promenade des Anglais au moment du feu d'artifice du 14 juillet. Alain Léautier, quand le président de la République dit aujourd'hui le 14 juillet ne sera plus jamais comme avant.
C'est une jolie formule.
Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est finalement aujourd'hui ça marquera?
C'est une formule, je comprends que Je comprends que le président la prononce. C'était voilà, c'était le jour pour la prononcer. Mmh. Après, c'est comme toutes les formules. On n'y pensera plus dans quelques temps.
Mmh. Alors, ce qui est assez étonnant quand même avec cette affaire de Nice, quand on prend un peu de recul, c'est sur l'enquête en fait. L'enquête même aujourd'hui, des enquêteurs continuent à explorer, et notamment ce lien avec Daesh, parce qu'il n'est pas établi.
Non, effectivement, l'enquête continue, mais. Sur Nice, parce que je crois qu'il y a, il y a deux types de questions que nous pose Nice. Il y a effectivement, à travers l'enquête que vous évoquez, la question du renseignement, la question de la mobilisation des forces publiques, des forces de l'ordre, des services de renseignement. Je crois qu'on va beaucoup en parler pendant cette émission. Exactement. Et puis moi, il y a un deuxième, quand je pense à Nice, il y a une deuxième question qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est le dégât collatéral de l'attentat. C'est-à-dire cette mise en évidence de des divisions de la société française, des zones où peut-être, parce qu'elles sont ghettoisées, peuvent être des matrices pour certains individus. On a beaucoup d'exemples comme ça. Je crois que c'est un questionnement qui est beaucoup plus fondamental, beaucoup plus sur lequel les réponses sont beaucoup plus compliquées que simplement les questions techniques et stratégiques sur le terrorisme.
Oui, c'est ça,
et
oui.
Nice a mis à nouveau, me semble-t-il, en évidence, même si les discriminations dont qu'on a beaucoup parlé ont été limitées à Nice. N'empêche, on a vu effectivement qu'il y avait dans cette population de fortes tensions et de fortes divisions.
Angelici, c'est vrai que on en parle de ces divisions dans la population française. Nice, il y a beaucoup de gens qui sont partis en Syrie, qui viennent de Nice, justement. Est-ce que c'est un terreau particulier, Nice? Est-ce que, finalement, c'était quelque chose qu'on pouvait observer en particulier?
Non, c'est vrai qu'il y avait des spots, un petit peu, où des filières sont constituées. En fait, c'est plutôt lié à une logique de quand un individu émane de là, en général, il fait venir avec lui ou il arrive à convaincre d'autres qui sont ses amis, des proches. Donc c'est plus une question, je dirais, c'est du djihadisme de voisinage, si vous voulez. Donc c'est souvent plus lié à cela que véritablement à un terrain spécifique qui générerait, qui conduirait une population géographiquement plus sensible à ce type d'argument. Ouais.
Alors on va parler du sécuritaire dans un instant, mais juste avant, Éric Scholl, la France donc est une cible depuis janvier 2015. Comment maintenant elle est vue finalement depuis l'étranger? On sait que touristiquement cette région a beaucoup souffert. Paris également fait tout pour faire revenir des touristes. Est-ce qu'on est toujours quand même ça dans cette ambiance? Comment est-on vu à ce niveau-là aujourd'hui à l'étranger?
Il me semble, mais peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on est sorti de cette période 2016 ou 2015-2016 où on a vécu une période extrêmement dure, en particulier pour le tourisme. On a vu d'ailleurs au premier semestre de cette année les touristes revenir en France. On est en train de sortir et d'essayer de rendre plus attractif le territoire. Et puis surtout, on s'est aperçu d'ailleurs qu'effectivement, si la France était visée, elle n'était pas la seule à être visée. On voit que beaucoup de territoires, beaucoup de pays européens ont été visés. Et d'une certaine façon, il y a certes par la place que la France a occupée dans la lutte contre les terroristes, elle représente une cible sans doute privilégiée, mais regardez, Londres, Berlin, Manchester ont été des cibles cette année. Donc, je pense qu'on a quand même, on est en train de revenir. Ça ne veut pas dire que la page du terrorisme se tourne. Enfin, on le souhaiterait évidemment, mais on sait que les risques sont toujours réels. On l'a vu il n'y a pas très longtemps sur les Champs-Élysées. Mais néanmoins, on est peut-être en train de passer à quelque chose de plus positif.
Alors forcément, quand on parle du 14 juillet 2016 à Nice, on pense aux victimes des différents attentats. Et une nouvelle fois cette année, nous avons été confrontés, vous l'avez dit, Richel, au pire, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, et ce, heureusement, arrêté à temps, après la création d'une task force dépendant directement de l'Elysée, de lois antiterroristes, d'états d'urgence dont les principaux points pourraient se retrouver dans le droit commun. La France est-elle mieux armée face aux terroristes? En fait, le problème, c'est que c'est une menace toujours présente, selon le Premier ministre Édouard Philippe.
Une loi de programmation militaire sera adoptée dès 2018. Elle portera l'effort de dépenses à 2% du PIB d'ici 2025 et permettra à la France de se battre sur tous les fronts. Mais je tiens à vous le dire sans détour, il y aura d'autres attaques, d'autres drames, d'autres vies innocentes fauchées. Nous ne nous habituerons jamais et nous ne baisserons pas la garde. À l'image des Français, nous affronterons cette menace avec une calme et une froide détermination.
Voilà, Édouard Philippe, lors de son discours de politique générale le 4 juillet dernier, Andrew Itcheli, on a l'impression, et beaucoup de Français aussi se disent, alors c'est sûr, on se réorganise à chaque fois, on fait des lois, on fait une task force, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et pourtant, cette menace est toujours là. Est-ce que finalement, il y a une arme vraiment importante qu'on pourrait déclencher pour essayer de stopper?
Alors, on est effectivement dans la répétition depuis des années. Hein. Je dirais que c'est pas spécifique à la France, c'est pas spécifique à l'Europe. Ça a commencé dès 2001, si on veut vraiment remonter jusque-là, avec une répétition qui consiste toujours à rajouter des couches sécuritaires, à et là, sous l'époque de sous Sarkozy, président, il y a une inflation de lois antiterroristes. Là, d'ailleurs, avec le renouvellement renouvellement de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre, devra succéder une nouvelle loi antiterroriste, plus l'intégration dans le droit commun de l'état d'urgence, des dispositions de l'état d'urgence. Donc voilà, ce qui manque, et on le sait, tout le monde le sait, les politiques le savent, mais c'est pas forcément payant dans l'immédiat, puisque c'est une démarche de longue haleine. Eh bien, c'est un travail de fond qui comprend de travailler sur l'ensemble du spectre qui crée cette menace. C'est-à-dire, c'est aussi ce qu'on fait à l'étranger. On a toujours pas repensé notre approche au niveau de notre politique étrangère. Elle est toujours exclue du débat. On parle de politique intérieure. Ce qui est positif avec le président Macron, c'est qu'effectivement, c'est cette fois dit comme étant une politique, à savoir de prendre en compte tout ce qui est justement l'approche socio-économique. Ouais. Mais sur l'approche diplomatique, c'est-à-dire en gros essentiellement militaire. Ce serait bien de revoir aussi un certain nombre d'alliances qu'on a, des stratégies où on dépense beaucoup d'argent d'ailleurs du budget de la défense. Est-ce que...
Alors c'est là le problème, justement, vous l'avez vu aujourd'hui.
Oui, ça a été depuis hier un problème, effectivement.
Un problème. On va continuer justement à en parler de ces mesures à prendre ou pas. L'info à 20h20, c'est Agathe Mahuem.
Qu'allez-vous faire après le bac? 87 000 élèves sont toujours ce soir sans affectation. Le ministère de l'Enseignement supérieur publie les derniers chiffres d'admission post-bac, montrant que le logiciel ne parvient pas à caser ses élèves. Depuis le dernier calcul fin juin, seul un quart des candidats en attente se sont vus proposer une formation. Les mots liberté, égalité, fraternité déposés tout au long de la promenade des Anglais, la cité niçoise en communion ce soir, un an tout juste après la du 14 juillet. Emmanuel Macron dit comprendre la colère ressentie contre les autorités, contre l'État. Le président l'a dit à l'issue d'une émouvante cérémonie à la mémoire des 86 victimes. Quelques centaines de manifestants dans Paris contre les dernières décisions d'Emmanuel Macron, celle d'accueillir avec les honneurs Donald Trump à Paris pour ce 14 juillet, celle aussi de réformer le code du travail, le déclenchement selon ces manifestants d'une guerre sociale contre laquelle ils ont donc défilé de la place de Clichy vers la Chapelle. Une victoire française sur la grande boucle, Warren Barguil s'impose au sprint à l'issue de la 13e étape jusqu'à Foix. Demain, 180 km entre Blagnac et Rodez. Et puis les Pyrénées-Orientales touchées par un incendie en ce moment près de la frontière espagnole au niveau de Morellas. 8 hectares de forêt de garrigue déjà parcourus par le feu. Une centaine de pompiers sont mobilisés. Des canadairs également sont en train d'arriver sur place.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Éric Scholl, directeur de Courrier International, également Alain Léautier de Marianne, Anne-Julie Celli, fondatrice de Terrorisque, société de conseil en intelligence stratégique. Nous devions avoir Anthony Bélanger, là on va peut-être lancer un jeu, mais où es-tu Anthony, hein, pour essayer de le retrouver dans Paris, en proche banlieue, peut-être en province. Il devait être là, mais il n'est pas là, voilà, peut-être est-il perdu même dans la maison de la radio. Nous parlons bien sûr de l'hommage national rendu aux victimes de Nice, mais surtout maintenant, justement, comment s'attaquer encore et toujours à ce terrorisme. Justement, Alain Léautier, on se souvient de quand il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron, il s'était fait un peu taper sur les doigts par Manuel Valls parce qu'il avait dit qu'il fallait un jour fallait s'interroger sur ce qui pousse un citoyen français à commettre un attentat contre son pays. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui il est encore dans cette réflexion ou il est dans le sécuritaire ?
Les dernières mesures, justement, sur la création de la task force nous donnent l'impression, et également, sa présence fort régalienne sur les questions de défense depuis quelques jours, nous donne l'impression, effectivement, qu'il surfe beaucoup sur la question sécuritaire. Ce qui n'est pas forcément, ce qu'on ne va pas forcément lui reprocher. Mais pour revenir sur la task force, moi, j'ai toujours pas compris de quoi il s'agissait exactement.
Surtout que ça existe, hein, déjà.
J'exagère un peu parce qu'on comprend bien que le projet est d'aller sur une réflexion stratégique qui aurait fait beaucoup défaut sur le renseignement français depuis quelques années. Mais enfin, en réalité, pour l'instant, ça ressemble beaucoup à un empilement de plus. Et on est les grands spécialistes. Rien qu'au ministère de l'Intérieur, vous avez deux unités sur l'antiterrorisme, l'UCLAT et les MCMOT. Ah, donc voilà, quelle est la véritable fonction de cette task force? Pour l'instant, je me pose la question, d'autant que, pour rebondir sur ce que disait Anne Guiducelli, un des problèmes très connus en France, si on parle uniquement de la question du renseignement, c'est bien sûr que le recueil du renseignement est important, mais c'est l'exploitation du renseignement. Et un des gros problèmes que les services français ont depuis des années, c'est la compréhension, l'analyse et l'exploitation du renseignement. Donc, est-ce que cette cellule va aider en ce sens? Ça me semble pas être sa fonction.
On nous a précisé même que c'était ouvert 24 heures sur 24. Hein, voilà, donc c'est important. Éric Scholl, c'est vrai que cet empilement finalement de mesures, on a l'impression qu'il y a derrière aussi quelque chose pour rassurer aussi la population. Parce qu'on l'a vu, Emmanuel Macron a dit à Nice, je peux comprendre cette colère de contre l'État. Est-ce qu'il y en a une aussi aujourd'hui
Bien
en
sûr.
France.
Et effectivement, rassurer, ça veut dire faire de la communication. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici. On n'a toujours pas compris à quoi servait cette task force. Elle nous a été expliquée, mais en même temps, elle apparaît à la fois un peu pléthorique. Elle peut être même presque dangereuse. Parce que si vous voulez les rattacher directement à l'autorité présidentielle, imaginez un attentat, on mettra en cause l'autorité présidentielle en cas d'attentat. Alors que ce n'est pas ça l'idée.
Ça, parce que c'est, donc, faut dire juste une chose, cette task force est sous la direction d'Emmanuel Macron directement.
Une nuance près, c'est qu'il est précisé, je crois, que c'est... Elle est également sous l'autorité opérationnelle, enfin, même si elle n'est pas opérationnelle, du Premier ministre. Donc, tout est confus, en réalité, dans les définitions.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes personnes qui ont été nommées, qu'il y a un vrai effort, et ça ne veut pas dire non plus qu'auparavant tout fonctionnait parfaitement. Mais c'est un empilement supplémentaire, comme s'il fallait nécessairement, à chaque fois, rajouter quelque chose pour dire, voilà ma trace, voilà ce que je fais contre le terrorisme. On sait que ce qu'il faut, il faut aussi des moyens, il faut des moyens supplémentaires, on le sait, on a déjà parler ici, poursuivre les fichiers S, etc. Il faut du temps, il faut de l'argent, il faut pouvoir les écouter, il faut de la surveillance, il faut des moyens. Et c'est là où nous vient l'inquiétude, c'est qu'il y a des discours, il y a des structures qui sont mises en place, et en même temps, après, quand on regarde les moyens, eh bien, ces derniers jours, on se demande si réellement le gouvernement est prêt à mettre les moyens pour mettre en œuvre les efforts qu'il préconise.
C'est vrai que quand aujourd'hui, on sait que tous les ministères vont être mis à contribution pour maigrir un peu, notamment parce qu'il faut trouver de l'argent, Gérald Darmanin l'a dit. Est-ce que finalement, ça ne risque pas d'empiéter finalement sur ces plans antiterroristes, sur le renseignement, sur...
Non, je crois que c'est certes les moyens sont importants, mais ce n'est pas en rajoutant forcément des fonds et des hommes qu'on résout la question, surtout sur ces problématiques-là. On est déjà à flux tendu quand même en matière de ressources déployées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, que ce soit l'armée ou l'intérieur, enfin la défense ou l'intérieur, à la fois sur le territoire et à l'extérieur du territoire, donc sur les fronts. Donc c'est plutôt quelle nouvelle stratégie on veut bien nous proposer. Et pour pouvoir mieux définir une bonne stratégie, il faut aussi bien comprendre, avoir une vraie connaissance de la nature de cette menace, de quoi elle est faite, qu'est-ce qui la compose,
c'est ce qui manque aujourd'hui.
Et pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de dire ça aujourd'hui? C'est parce qu'on a toujours on intervient toujours après. C'est-à-dire, en gros, ces réseaux-là ont toujours un coup d'avance. Donc, l'idée, et d'ailleurs, les services le disent clairement, et même, le nouveau patron de la DGSE l'avait lui-même dit publiquement, c'est que le gros problème, la vraie priorité, c'est l'anticipation. C'est anticiper sur les menaces de demain, et en particulier sur cette menace qui est bien réelle et bien d'aujourd'hui.
Et ben en tout cas, on continuera bien sûr à s'interroger dessus. Merci beaucoup, Angélique Chély, d'être passée ce soir aux Informés de France Info. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Terrorisque, société de conseil en intelligence stratégique. Merci beaucoup. Dans un instant, nous parlerons de Donald Trump. Ça y est, il s'est envolé dans son grand avion vers Washington. Il est retourné chez lui après deux jours de visite en France. Sûrement, vous en avez entendu parler. On essaiera de faire le bilan et surtout de ce qu'ils se sont dit hier entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Voilà la suite du programme des Informés de France Info.
La première fois qu'on lui a proposé le badge télépéage Vinci Autoroute, Vincent a dit « Ah ça non, très peu pour moi, je n'aime pas m'engager puis je prends pas l'autoroute assez régulièrement. » Ce à quoi on lui a répondu « Avec le badge Vinci Autoroute et la formule temps libre, c'est sans engagement et les mois où vous ne roulez pas, eh bien vous ne payez pas. Et quand vous payez, le paiement est différé jusqu'à 45 jours. » Alors Vincent a eu cette phrase historique, il a dit « Si c'est comme ça, je veux bien. »
Vinci Autoroute, roulons autrement. Disponible en espace client ou sur vinciautoroute.com. Nous sommes la France.
Je ne peux pas.
À l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, Radio France est fière de vous présenter la France dans toute sa diversité.
Sans qu'elle soit là,
on verra bien. On verra bien.
Ce soir, on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas.
En partenariat avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'amour a tous les droits. Et nous, tous les devoirs.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Plus ensoleillé et plus chaud ce week-end. Demain, le soleil aura largement l'avantage. Il faudra quand même composer avec un peu de grisaille vite oubliée vers le Pays Basque. Des passages nuageux entre les Hauts-de-France et le Nord-Est et peut-être une averse sur le relief du Sud. Pour les températures, un peu de fraîcheur le matin, 10 à 16 degrés, jusqu'à 22 en Méditerranée. L'après-midi, ce sera mieux, 21 à 29 degrés, encore 28 à 35 dans le Sud-Est. Pour dimanche, à nouveau du soleil. Cette fois, les nuages circuleront de la Bretagne au nord de la Seine, avec de belles éclaircies, je vous rassure. Il fera plus chaud, 24 à 30 degrés au nord, 28 à 32 au sud, jusqu'à 35 toujours dans le sud-est. La chaleur va s'accentuer en début de semaine prochaine avec un pic pour la journée de mardi.
Imagine des avenues et des façades monumentales qui rivalisent d'audace dans une grande leçon d'histoire. Strasbourg et sa ville impériale classées deux fois à l'UNESCO. Strasbourg, t'imagines même pas.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Hugo Charpentier, bonsoir.
Nice rend hommage à ses morts un an après l'attentat qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais. Les hommages se sont multipliés toute la journée en présence notamment du chef de l'État et des anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy. Dans une allocution, place Masséna, le président Emmanuel Macron a dit comprendre la colère ressentie contre l'État après l'attaque.
J'ose vous le dire, comme chef de l'État, je comprends cette colère. Lorsque l'impensable se produit et déchire nos vies, on en cherche les causes. Et l'État, alors, doit regarder ses responsabilités en face. Et je vous le dis ce soir, tout sera fait pour que la République, l'État, la puissance publique regagne votre confiance. Pour que cette épreuve inconcevable, loin de nous diviser, nous rassemble. L'État ne vous abandonnera jamais. Pas plus qu'il n'abandonnera la recherche de la vérité, le châtiment des coupables, mais aussi le soutien humain, juridique, financier qu'il doit aux victimes.
Et avant de se rendre à Nice, Emmanuel Macron était au défilé militaire du 14 juillet ce matin à Paris. Une parade qui a célébré l'amitié entre la France et les États-Unis qui, il y a 100 ans, en 1917, engageaient leur armée dans la Première Guerre mondiale. Des soldats américains ont donc ouvert la marche sur les Champs-Élysées. Et en marge du défilé, une manifestation à l'appel des syndicats CGT Sud et d'associations et de collectifs souhaitant dénoncer la présence du président américain, mais aussi la réforme du Code du travail. Contre Trump, Macron et sa guerre sociale. C'est sur ce slogan que plusieurs centaines de personnes ont défilé cet après-midi à Paris, de la place Clichy en direction de la porte de la chapelle. En Égypte, des touristes victimes d'une attaque au couteau. Deux Allemandes sont mortes, quatre autres blessées. Ça s'est passé dans la station balnéaire de Hougarda, dans l'est du pays. C'est la première fois depuis janvier 2016 que des touristes sont la cible du terrorisme en Égypte. Cela faisait 12 ans qu'un Français n'avait plus levé les bras un 14 juillet sur la Grande Boucle. Le jeune grimpeur tricolore Warren Barguil s'impose dans la 13e étape du Tour de France entre Saint-Giron et Foix, dans l'Ariège. Le maillot à poids du meilleur grimpeur a devancé au sprint Nairo Quintana et Alberto Contador. Au classement général, l'Italien Fabio Aru reste en jaune, suivi de près par Christopher Froome et Romain Bardet. On connaît l'affiche de la finale homme de Wimbledon. Marin Cilic sera opposé dimanche à Roger Federer. Le Suisse vient de battre en demi-finale le Tchèque Tomáš Berdych 3-7 à 0. 20h33 sur France Info. Jean-Mathieu Pernin les informait.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils ont eu une perme aujourd'hui, hein. Ils se sont jetés avec joie sur l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Eric Scholl, directeur de Courrier International, également Alain Léautier de Marianne. Et pour cette dernière demi-heure, le géopolitologue Bruno Tertrais. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, juste avant de parler de Donald Trump, de sa visite et du bilan, juste un petit mot, parce qu'on parlait justement du terrorisme. En début de semaine, le gouvernement irakien a annoncé la chute de Mossoul. C'est la capitale, c'était la capitale autoproclamée de Daesh en Irak. Est-ce que ça peut mettre clairement un coup de frein aux terroristes chez nous, Bruno Tertrais?
Non, sûrement pas.
Non.
C'est une prise symbolique, évidemment. C'est aussi quelque chose qui est important parce que chaque ville, c'est des populations, c'est aussi des ressources. Donc chaque fois qu'on grignote une ville ou un village à l'État islamique, ça réduit ses moyens. Et puis le symbole, ça compte parce que ça réduit la force d'attractivité de ce mouvement. Mais certainement pas, aucun lien direct en tout cas entre moins d'attentats ou plus d'attentats chez nous d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, Eric Scholl. Souvent on se dit ça, on se dit finalement, on voit une opération comme le 13 novembre qui était une opération quasiment militaire. On voit aujourd'hui un terrorisme qu'on dit plutôt low cost, puisqu'on se sert de voitures ou de marteaux qu'on a pu voir à Notre-Dame, ça veut dire aussi qu'il y a une logistique aujourd'hui qui est beaucoup moindre.
Bien sûr, mais on l'a déjà vu, ça a même été quelque sorte théorisé par Daesh, il y a maintenant à peu près un an, où Daesh, s'apercevant qu'il perdait du terrain, a incité les éventuels terroristes, les djihadistes, à commettre des attentats, et non pas à revenir plutôt, non pas à aller dans les territoires, en Syrie ou en Irak, mais à essayer de commettre des attentats. Donc on a vu que ça a même déjà été anticipé et théorisé. C'est pour ça que c'est pas que la fin de Mossoul et la réduction du territoire pris par l'État islamique ne signifie pas la fin des attentats, loin de là.
Alain Léautier, on sait que ce n'est pas, bien sûr, la seule ville. Hein. Il y a encore, il y aura encore Raqqa, notamment l'État islamique. On imagine qu'un combat encore plus difficile va s'organiser puisque c'est en Syrie cette fois-ci. Est-ce que finalement, aujourd'hui, la guerre qu'il y a aujourd'hui en Syrie, l'État islamique par-dessus, est-ce que finalement c'est possible à un moment d'arriver au bout et de les atteindre totalement?
D'arriver au bout de l'État islamique, non. D'arriver au bout de la conquête de Raqqa, probablement. Encore que le terrain est plus compliqué en Syrie qu'il n'est en Irak.
Oui.
Parce que vous avez des intérêts qui sont assez contradictoires en Syrie, entre l'opération qui est menée avec le soutien des États-Unis et les FDS, donc ces troupes arabo-kurdes et essentiellement kurdes, la propre offensive du régime de Damas et le jeu un peu bizarre des États-Unis ces derniers temps par rapport à l'occupation de l'est de la Syrie. Donc en réalité, il y a des intérêts très contradictoires en Syrie, très complexe, alors que le front, à bien des égards, pouvait apparaître plus franc autour de Mossoul. Mmh. Voilà. Donc c'est pas une situation facile, et militairement, c'est pas pour tout de suite.
Alors justement, vous en parliez à l'instant des États-Unis et Donald Trump était chez nous, hein, ça y est, il est reparti, mais c'est sûr que Donald Trump n'est pas le président américain le plus populaire. On dit souvent qu'il se comporte bizarrement. Mais on peut le comprendre aussi, parce que qui n'agirait pas bizarrement quand, au saut du lit, on vous fait monter sur une tribune sur les Champs-Élysées pour vous faire rencontrer Gérard Larcher et François de Rugy. Bon, c'est vrai que là, c'est une claque hein, pour le président américain. Idem, puisqu'on lui a quand même fait serrer la main de Lynn Renault. C'est un choc, ça, à vous faire rater quand même un avion. Le défilé militaire du 14 juillet, point d'orgue de la première visite officielle de Donald Trump en France. Et les au revoir interminables entre les couples Macron et Trump ont montré que l'un comptait sur l'autre. Et le président de la République a tenu à redire à la tribune du défilé sur les Champs-Élysées tout son amour pour les États-Unis, Emmanuel Macron.
Des alliés sûrs, des amis qui sont venus à notre secours. Les États-Unis d'Amérique sont de ceci. C'est pourquoi rien ne nous séparera jamais.
Voilà, Emmanuel Macron ce matin sur les Champs-Élysées. Bruno Tertrais, derrière cette déclaration d'amour, il y a un peu de politique ?
Il n'y a que de la politique. Il n'y a pas d'amour là-dedans.
Je
conteste pas la sincérité d'Emmanuel Macron, qui a un aspect, qui a une dimension affective, empathique qu'on connaît bien. Et je pense que ces embrassades avec Trump, il y a aussi de la sincérité. C'est pas seulement de la politique, parce qu'il y a une espèce de fascination mutuelle pour les deux hommes. Mais tout de même, c'est d'abord de la politique. Et franchement, il a très bien réussi son coup. Hein. Autant ces jours derniers, on avait une polémique sur le budget de la défense, qu'à mon avis, il a très mal géré lui-même. Autant alors là, avec Trump, ça a été chapeau. Oui. Parce que c'était... Vous savez, Macron, il aime surprendre, mais il a tout autant surpris l'opinion française que surpris Donald Trump. Et il l'a bluffé sans trop en faire. Alors évidemment, il n'était peut-être pas obligé de faire le tombeau de Napoléon, mais il a fait quand même ce qu'il fallait pour impressionner Donald Trump. Donald Trump qui était sans doute ravi d'ailleurs de passer quelques jours à Paris, alors que...
Il était un peu englué dans une affaire.
Il est de plus en plus, sa famille est directement maintenant englué dans l'affaire Clinton, donc on va l'appeler l'affaire de la campagne. Et très franchement, je crois qu'à la fois sur le plan des symboles et des messages politiques, parce qu'on va quand même en venir aux messages politiques, c'est vraiment gagné. C'est un pays dont on a besoin sur un certain nombre de terrains, notamment au Sahel, où la coopération militaire américaine est très importante pour nous. Donc il fallait aussi bien le traiter pour ça. Mais voilà, je crois que c'est vraiment, de ce point de vue-là, un sans-faute.
Alain Léautier, pour vous, c'est un sans-faute aussi est-ce qu'il y a eu quelque chose, finalement?
Non, mais moi, c'est... Un sans-faute du côté... Pardon, je reprends la parole. Il y a eu quand même quelques fautes de goût de la part de Donald Trump.
D'accord, alors on va y revenir, mais Alain Léautier.
Non, mais le commentaire que vient de faire Bruno Tertrais est très révélateur de la fascination, il a prononcé le mot, qu'un maître en communication exerce sur les élites intellectuelles et médiatiques en ce moment.
Je vous rassure, aucune fascination de ma part. Jugement analytique et politique.
C'était une plaisanterie. Je m'inclus dans les élites médiatiques. Non, mais effectivement, c'est un super coup sur rien, à peu de frais, sur trois fois rien. Mais effectivement,
pour vous, il s'est rien passé en fait là.
Il s'est passé une formidable opération de communication qui est parfaitement réussie et dont effectivement Bruno Tertrais, je pense notre autre interlocuteur nous dira qu'elle est parfaitement réussie. Sur le bilan politique, oui, effectivement, on a besoin des Américains au Sahel et il y avait aussi peut-être, on va peut-être en parler, il y avait aussi une opération politique intéressante, les deux individus, les deux présidents dans leur situation respectives.
C'est ça, voilà. Alors c'était...
Il est formidable, effectivement, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait très très peu d'expérience internationale vient de se constituer en 4 ou 5 coups de com' une assise internationale absolument magnifique.
On va en parler justement de l'intérêt des deux hommes l'un envers l'autre. L'info à 20h40, c'est Agathe Mahuet.
La Légion d'honneur remise ce soir par Emmanuel Macron à plusieurs pompiers et policiers intervenus à Nice le soir de l'attentat il y a tout juste un an. La France s'est mise à l'unisson de votre douleur, voilà ce qu'a dit le président aux Niçois et aux proches des 86 victimes lors d'une émouvante cérémonie ce soir sur la place Masséna. Plus tôt dans la journée, Paris aux couleurs du 14 juillet, les avions de la patrouille de France ont survolé la ville, les Champs-Élysées, accompagnés aussi de plusieurs appareils américains. Une fête nationale, on l'a dit, empreinte de cette cette amitié franco-américaine défendue par Emmanuel Macron. L'occasion également pour le président français de rendre un hommage appuyé à l'armée après ses propos peu appréciés par le chef d'état-major des troupes françaises. Washington redit ce soir ne pas avoir de preuves de la mort d'Aboubacar al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique dont une ONG syrienne, l'OSDH, affirmait cette semaine qu'il avait bien été tué. Pas de confirmation donc de la part de l'armée américaine. Dans l'Hérault, un collège de Castries largement endommagé par un incendie, pas de blessés, mais les trois quarts du bâtiment sont détruits. Ce sont des bouteilles de gaz entreposées là pour un chantier de rénovation qui ont explosé. La rentrée des 700 élèves de cet établissement des Pins s'annonce donc perturbée. Deux infos sport, le français Warren Barguil victorieux sur la 13e étape à Foix. Il conserve son maillot à pois tout comme l'italien Fabio Aru porte toujours le maillot jaune. Et puis une 11e finale à Wimbledon pour Roger Federer. Le Suisse affrontera dimanche Marin Cilic. Demain, tableau féminin, la finale entre Garbiñe Muguruza et Venus Williams.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il y a eu l'hommage à Nice cet après-midi. Juste avant, il y a eu bien sûr le défilé militaire sur les Champs-Élysées auquel assistait Donald Trump. C'était le point d'or, le climax de sa visite officielle, première visite officielle en France. Alors, Eric Scholl, on ne sait pas trop finalement, en effet, le bilan de ces deux jours. Par contre, il a dit une chose, Donald Trump, c'est il pourrait se passer quelque chose concernant l'accord climat. Alors, est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose ou alors c'est parce qu'il fallait dire quelque chose face aux journalistes et que Donald Trump a pris sa décision, il s'en va, l'accord de Paris, il s'en va.
Il a dit qu'il sortirait, il sortira. Donc peut-être qu'après, il va y avoir une sorte d'emballage pour faire plaisir à Emmanuel Macron, pour essayer d'habiller ça. Mais il a quand même dit qu'il sortirait. Ou alors on serait surpris. Mais effectivement, et je crois que Emmanuel Macron savait bien qu'en invitant Donald Trump, il ne ferait pas revenir sur cette question. Ça a été annoncé officiellement que les États-Unis se retiraient de ce traité. On voit mal Donald Trump. Ou alors vraiment, ça sera sur. Et en même temps, ce président américain nous a appris qu'il était capable de nous faire des grosses surprises.
Alors là, justement, les grosses surprises aussi, ça fait partie qu'il avait beaucoup critiqué la France longtemps. Il parlait des no-go zones, il parlait justement de l'attaque du Bataclan. Et là, il a une déclaration d'amour pour la France.
Oui, c'est vrai.
Il a dit, vous avez un super président, vous êtes un super pays, vous avez des vieux bâtiments. Bon, voilà, ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Mais c'est étonnant, non, de la part de Donald Trump. Il a fait marche arrière là-dessus.
Oui, non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, Emmanuel Macron a su instaurer une relation. Et il l'a fait très vite, très tôt. Alors, la première poignée de main, c'était le 25 mai dernier à Bruxelles, a été un peu dure. Ensuite, il y a eu effectivement les propos d'Emmanuel Macron sur l'accord de Paris qui ont été ainsi un petit peu durs. Et Emmanuel Macron, c'est toujours cette phrase. Et en même temps, il était capable aussi de se dire on va travailler ensemble. Et Donald Trump a saisi cette perche et il en avait besoin parce que il lui faut aussi des interlocuteurs. On sait à quel point le contact était glacial avec Angela Merkel. Donc les deux ont chacun intérêt à traiter ensemble.
Alors, c'est ça.
Pour la suite en Europe, Emmanuel Macron s'est dit tiens, si moi je veux faire réexister la France en Europe, si je veux faire défendre des positions sur le climat mais aussi sur bien d'autres sujets, je peux être l'interlocuteur des États-Unis. C'est ça, il le joue d'une façon superbe. Il y a de la communication, il y a de la diplomatie.
On voit encore vous dire que vous êtes fasciné.
Non, absolument pas, je suis pas fasciné. Mais il a fait la même chose avec, rappelons-nous, avec Vladimir Poutine.
Il a fait la même chose avec Poutine. La question, Bruno Tertrais, c'est quand même, Eric Scholl l'a dit, c'est que outre Theresa May, aujourd'hui, les leaders européens sont pas très bien avec Donald Trump. Angela Merkel, c'est carrément là le froid. Alors, l'intérêt de ces deux hommes d'être ensemble, c'est quoi?
C'est effectivement un intérêt mutuel. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne n'existe plus.
D'accord.
Elle est sortie du jeu temporairement, mais elle n'est plus là. Et donc, c'est vrai que c'est particulièrement facile, c'est peut-être plus facile qu'à l'accoutumée, pour la France de se présenter comme le grand interlocuteur européen, d'autant plus qu'on fait beaucoup de choses avec les Américains qu'on ne fait pas avec les Allemands, sur le plan sécuritaire et militaire.
D'accord.
Et c'est pour ça que c'est important. Tout ça n'est pas artificiel. Alors d'accord, c'est du symbole, mais les symboles, ça compte en diplomatie. Il a justement montré que, par exemple, il recevait Donald Trump encore mieux que Vladimir Poutine. Il avait très bien reçu Vladimir Poutine. Et il fait encore mieux pour Donald Trump. Honnêtement, c'est très fort. Et comme je l'ai critiqué tout à l'heure, vous n'allez pas me ressortir que je suis fasciné parce qu'on peut revenir sur le budget militaire. Et là, franchement, il a vraiment, à mon avis,
vraiment très mal géré. On est bien d'accord. Non, mais je vous taquinais gentiment.
Non,
Bruno.
Mais c'est pas grave, vous savez.
Non, mais c'est vrai que
je vous en prie, cher ami.
C'est vrai que les planètes sont alignées. Temporairement, effectivement, Theresa May est dans une situation impossible. Elle n'existe plus. En plus, une des raisons, n'oublions pas qu'il a dû annuler son voyage en Grande-Bretagne sous la menace de manifestations extrêmement importantes. En Allemagne, la relation avec Angela Merkel, on la connaît. En plus, il a eu le droit au Black Bloc pendant le G20. Nous, les Black Blocs en France ont pris leur congé d'été de manière anticipée. Au-delà de la plaisanterie, oui, les planètes étaient alignées pour l'un et pour l'autre. Et faut-il quand même ajouter, pour Macron, l'intérêt, au-delà de cette stature internationale qui se donne finalement à peu de compte, ses résultats pour l'instant sur la scène diplomatique en Europe sont quand même assez maigres. Dans la bataille qu'il a... la paix armée qu'il a décidé d'instaurer avec l'Allemagne dans la perspective de la relance du couple franco-allemand et de concession de l'Allemagne, pour l'instant, le résultat il est assez maigre. Donc, se réarmer du côté des États-Unis, même s'il faut passer par Donald Trump, pourquoi pas.
Et Eric Scholz, ça intéresse aux États-Unis justement cette visite en France finalement de Donald
Trump? Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'articles, des articles d'ailleurs, le Washington Post aujourd'hui fait un article qui est mitigé parce que il compare les deux personnages et il constate finalement qu'il y a des similitudes entre eux en disant que au départ normalement tous les opposent.
Bien sûr.
En réalité tous les deux sont un peu hors système, anti-système et finalement ils reprennent l'expression, rappelez-vous de cette expression qu'avait utilisé Donald Trump à propos de la politique américaine, il avait dit je vais assécher le marigot, assécher le marigot de Washington. Ils disent, au fond, le discours qu'a fait récemment à Versailles notre président, Emmanuel Macron, c'est une version plus poétique de ce slogan de Trump, je vais assécher le marigot.
C'est exactement ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale, il a quand même pas mal asséché
le marigot.
Mais c'est vrai qu'au-delà de l'anecdote, il y a une vraie curiosité mutuelle qui fait que finalement, c'est vrai qu'ils s'entendent plutôt bien. Alors, vous parlez du manque de résultats concrets, on pourrait peut-être parler de la Syrie, parce que là aussi, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est ce que va être ou ne pas être la coopération franco-américaine dans ce domaine. À mon sens, Washington ne sait pas où elle va,
où aller,
et Paris non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des mots, vous avez de la posture, vous avez des déclarations contradictoires des deux côtés. Et
Il y a tout de même Emmanuel Macron qui a dit qu'il ne faisait plus une priorité quand même du départ de Bachar el-Assad, contrairement à François Hollande.
Non, ça n'est pas ça qu'il a dit.
Ah d'accord.
Et ce qu'il a dit, c'est...
Plus un préalable.
Il a dit que, pour lui, le changement, c'était qu'il ne faisait plus un préalable à tout du départ de Bachar el-Assad. Sauf qu'avant, on ne faisait pas du départ de Bachar el-Assad un préalable à tout. C'est dans la posture, c'est du langage, c'est un message à la fois à Damas et à Moscou pour dire, attendez, nous, on arrive, on prend tout d'un regard neuf, on reprend tout à zéro. Le problème, c'est qu'on est toujours à zéro. Autrement dit, quand vous demandez aujourd'hui au gouvernement français quelles sont les idées concrètes qu'on a à mettre sur la table avec ou sans les Américains, alors on envisage de créer, idée géniale, un groupe de contact. Alors ça, la mécanique diplomatique, c'est formidable. Quand vous avez rien à dire, vous créez un groupe de contact, c'est-à-dire qu'on met les gens autour de la table. C'est formidable. Bon, alors on a un processus à Astana. Il y a un processus à Genève.
À Genève et à Astana.
Oui, mais la différence, c'est que ce sont deux vrais processus avec du fond qui se négocient. Simplement, on dit, on va essayer de créer des passerelles entre Genève et Astana. Franchement, pour le moment, il n'y a rien, mais du côté américain, c'est pas mieux.
Alors, on va continuer à en parler, justement, de cette visite de Donald Trump. On va essayer de trouver un bilan à tout ça. Finalement, est-ce qu'il y en a une? Parce qu'il paraît qu'ils ont quand même bien mangé. Voilà, c'était déjà ça. Au restaurant Le Jules Verne à la Tour Eiffel. Pour l'instant, l'info à 20h50, c'est Agathe Mahuet.
L'hommage de la France aux Niçois et aux victimes de l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais, un an tout juste après l'horreur. « Vous avez permis que la nation redresse la tête », a dit le chef de l'État au peuple de Nice pour cette cérémonie pleine d'émotions. « Cette monstruosité restera gravée dans ma mémoire », confie pour sa part le maire Christian Estrosi. Des ballons sont lâchés ce soir dans le ciel de Nice. Pas de feu d'artifice en revanche pour ce 14 juillet dans tout le département des Alpes-Maritimes. La capitale, elle, s'est célèbre ce soir traditionnellement la fête nationale, concert lyrique, feu d'artifice à Paris tout près de la Tour Eiffel, le tout évidemment placé sous haute sécurité. L'Égypte touchée par une attaque au couteau dans la ville d'Hurghada, cité balnéaire au bord de la mer Rouge. Deux touristes étrangères sont mortes, un doute subsiste quant à leur nationalité, quatre autres blessés selon les médias égyptiens. L'assaillant, lui, a été arrêté, il est actuellement entendu par la police. 87 000 élèves, toujours ce soir sans affectation. Le ministère de l'Enseignement supérieur publie les derniers chiffres d'admission post-bac. Et ce que l'on comprend, c'est que le logiciel ne parvient pas à caser ses élèves depuis le dernier calcul qui remonte à fin juin. Seul un quart des nouveaux bacheliers et candidats désormais sont en attente et se sont vus proposer une formation. Et puis dès septembre, le lycée Nord-Bassin d'Andernos sera rebaptisé au nom de Simone Veil. Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, donne son feu vert. Les élèves de la commune ont travaillé durant des mois sur la déportation et la vie de l'académicienne qui est décédée le 30 juin dernier.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info ont terminé cette émission en parlant justement de ce couple franco-américain. Pourquoi Donald Trump était-il en France? Eh bien tout simplement pour célébrer l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Des troupes américaines ont d'ailleurs défilé aujourd'hui sur les Champs-Élysées. C'est un peu une intervention qui a également cimenté, hein, de toute façon, cette relation qui existe depuis Lafayette. Donc ça fait pas mal de temps. Pourtant, on peut beaucoup se poser de questions autour de ce couple, Eric Scholl. Est-ce que c'est la France et les États-Unis, finalement, ils sont toujours aussi proches? Ou pas?
En ce moment, oui. Enfin, ils essayent de le venir. Ils le sont restés. Il y a eu des moments plus compliqués. Il y en a eu même récemment. C'est lorsque Obama, en 2013, finalement, lorsqu'il avait évoqué ses lignes rouges, et n'a pas tenu sa parole, qui était celle d'intervenir en Syrie. Les Français lui ont été extrêmement fâchés de cette décision américaine, qui a été suivie par la décision britannique aussi de ne pas intervenir en Syrie. Et donc, se sont retrouvés un petit peu seuls. Oui, c'était plutôt l'inverse. Ça a commencé par le vote aux communes et ensuite la décision de Barack Obama. Les Français se sont retrouvés tout seuls et on a eu une sorte de froid qui s'est établi depuis ce temps-là avec l'administration américaine.
Alain Léautier, ce couple aujourd'hui, il faut qu'il se prouve de nouveau qu'il s'aime, qu'il s'entretient justement ou pas?
Je le poserai la question différemment, si vous permettez. Je me demande si dans ce couple, il n'y en a pas un qui finalement, malgré ses velléités de singularité, finalement se retrouve toujours à revenir dans le couple sur la dépendance. Je parle de la France par rapport aux États-Unis.
La fameuse critique sur on est aligné ou pas, sur les États-Unis.
Oui, qui est une critique récurrente, qui est une question récurrente sur la posture de la France, sur sa diplomatie. Là, c'est vrai que subitement, je reviens brièvement sur la Syrie. La déclaration commune qu'ont fait Macron, Emmanuel Macron, le président, et Trump sur la Syrie, concernant la nécessité de réagir immédiatement en cas de nouvelle attaque chimique du régime de Damas, est un peu étonnante. Je ne sais pas trop où elle nous mène.
C'est ce que vous disiez.
C'est un vrai marqueur. Parce que, en gros, Macron a repris la posture de Hollande, mais en disant, attention, cette fois, si les États-Unis n'y vont pas, je suis prêt à y aller seul. Et ça, c'est très fort aussi.
Comment vous le voyez, justement?
Non seulement c'est très fort, mais après, Trump a dit, on peut y aller ensemble. Ouais. Et ça permet de dire, nous, on dépend pas des Américains. Oui. Parce que techniquement, on peut le faire. 2013, on aurait pu le faire. Simplement, Hollande avait décidé de ne pas le faire pour des raisons politiques. Mais techniquement, opérationnellement, c'est possible. Et donc, je trouve que, du point de vue, d'abord, c'est quand même un message assez fort, sur le fond, pour dissuader tout acteur d'employer des armes chimiques. Mais aussi, je crois que c'est un message politique très fort qui dit, attention, je ne veux pas dépendre des Américains. Donc vous voyez, il y a quand même un peu... Là, pour le coup, il place le curseur un petit peu plus du côté de l'indépendance.
Donc c'est un couple qui vit ensemble, mais chambres séparées, quoi, on va dire. Un peu ça, pour notre
Oui, si vous voulez, mais on couche ensemble de temps en temps quand même. C'est-à-dire tous les 10 ans, il y a une crise franco-américaine, ouais. Voilà. Mais il n'empêche que, et c'est pour ça que Trump était là aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait quand même 100 ans qu'on travaille ensemble, et dans la majorité des grandes crises, on travaille ensemble, on a les mêmes intérêts. Ça n'empêche que, dans quelques années, peut-être que pendant le quinquennat de Macron, on aura peut-être de nouveau une crise, et puis ça repartira. C'est comme ça depuis 200 ans.
Ouais, c'est ça, Eric Scholl. C'est vrai que la dernière fois qu'était venu un président américain le 14 juillet, c'était George Bush, père. Bonnard était venu pour les célébrations américaines 1989. Donc c'est quand même l'histoire encore qui rassemble quand même ces deux pays. Quoi.
Oui, je crois que ça rassemble. Et en même temps, on a bien vu du temps de Chirac, on a vu les hauts et les bas que ça peut avoir. Et on a vu même depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on a vu qu'il y a eu cette histoire sur le climat qui est vraiment quelque chose qui nous oppose. Ça n'empêche pas que derrière, il puisse y avoir des intérêts communs entre la France, entre Paris et Washington.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup à Bruno Tertrais d'être passé ce soir. Un petit coup d'œil à nos partenaires. Alain Léautier, la une de Marianne cette semaine.
Elle est un tout petit peu légère, mais finalement...
Brigitte, un fantasme français. Voilà. Bardot et également la Première Dame. La une de Cour internationale, Éric Scholl.
Ah, beaucoup moins léger. Donald Trump et Emmanuel Macron, quasiment main dans la main, les meilleurs ennemis.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Alors, juste un petit clin d'œil à une personne qui s'est occupée des images pendant toute l'année, hein, qui a beau avoir porté des Bermudas, ça m'a un peu énervé, mais c'est pas grave. C'est Jean-Vincent Rousseau, je le remercie énormément de nous avoir accompagnés tout au long de l'année, puisque les informés reviennent en version radio à partir de la semaine prochaine. Et il est temps pour moi également, non pas d'accueillir Matteo Maestrachi, mais surtout de le remercier, parce que c'est le dernier Classico ce soir. Merci beaucoup, en tout cas, Matteo, ça a été un vrai
Merci
plaisir d'être avec vous tous les soirs, même... Je dois vous le dire, vous avez été un peu léger sur le patinage artistique et le cricket. En tout cas, merci de nous avoir fait vivre ce sport tous les soirs entre 21h et 22h. J'étais très fier de travailler à vos côtés et je suis très fier de vous lancer une nouvelle fois ce soir pour le Classico au menu ce soir.
Merci, c'était un très bel hommage. On va commencer avec de l'émotion. Ça va pas aider à parler correctement, mais merci beaucoup Jean-Mathieu, je m'y attendais pas.